Chapitre 7. Départ de Comporellon. 26. La collation consistait en une pile de boulettes moelleuses qui contenaient chacune, sous une croûte de couleur différente, tout un assortiment de garnitures. Déniador saisit un petit objet qui se déplia pour former une paire de gants fins et transparents qu'il enfila. Ses hôtes l'imitèrent. « Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces objets, je vous prie ?» demanda Joie.
« Les boulettes roses sont farcies de lamelles de poisson épicées, une grande spécialité comporélienne. Les jaunes contiennent une garniture au fromage extrêmement douce. Les vertes un mélange de légumes. Mangez-les tant qu'elles sont chaudes. Ensuite, nous aurons un gâteau aux amandes chaud, servi avec les boissons habituelles. Je me permets de vous recommander le cidre chaud. Dans un climat froid, nous avons tendance à servir nos plats chauds, même les desserts.
« Vous vous soignez bien, » observa Pellerat.
« Pas vraiment, » répondit Déniador. « Je suis hospitalier avec mes invités. Quant à moi, je me contente de fort peu. Je n'ai pas une grosse masse corporelle à nourrir, comme vous l'aurez sans doute remarqué. »
Trévise mordit dans une des boulettes roses et lui trouva effectivement un net goût de marée, avec une touche d'épices pas déplaisante, mais qui, estima-t-il, allié au poisson, allait lui rester dans la bouche pour le reste de la journée et peut-être de la nuit. Lorsqu'il examina l'objet duquel il avait pris une bouchée, il découvrit que la croûte s'était refermée sur son contenu. Pas de jus, pas de fuite, et durant un instant, il s'interrogea sur l'utilité des gants. Il lui semblait ne courir aucun risque de se tacher les mains s'il s'en passait, aussi estima-t-il que ce devait être une question d'hygiène. Les gants remplaçaient le lavage des mains si la chose n'était pas pratique, et sans doute la coutume dictait-elle désormais leur usage même quand les mains étaient lavées. Les alors n'en avaient pas utilisé lorsqu'ils avaient mangé la veille, peut-être parce que c'était une montagnarde. Serait-il discourtois de parler de notre affaire durant le repas?
D'après l'usage comporélien effectivement conseillé, mais vous êtes mes hôtes et je me conforme à vos usages. Si vous désirez discuter sérieusement et sans estimer ou vous soucier que cela puisse diminuer votre plaisir d'être à table, je vous en prie, faites et je me joindrai à vous.
Merci, dit Trévise.
Le ministre Lisalor a laissé entendre, non, elle a carrément affirmé, que les sceptiques étaient mal vus ici. Est-ce vrai?
La bonne humeur de Déniador parut s'intensifier.
Certainement! Comme nous serions blessés si tel n'était pas le cas. Comporellon, voyez-vous, est un monde frustré. Nous n'oublions jamais que jadis, il y a bien des millénaires, lorsque la taille de la galaxie habitée était encore limitée, Comporellon était une planète dominante. Nous n'avons pas oublié les légendes qui comptent les grandes empoignades avec les spatiaux, la première vague de colons. Mais que pouvons-nous faire? Le gouvernement a été un beau jour contraint de devenir un loyal vassal de l'empereur et est aujourd'hui devenu un loyal associé de la Fondation. Et plus on nous fait prendre conscience de notre position subordonnée, plus imposantes et plus échevelées deviennent nos légendes du passé. Et que pourraient faire les Comporelliens? Jamais dans le temps, ils n'ont pu défier l'Empire, pas plus qu'ils ne peuvent aujourd'hui défier la Fondation. Par conséquent, ils se rabattent sur leur haine et leurs attaques contre nous, puisque nous ne croyons pas aux légendes et rions des superstitions. Quoi qu'il en soit, nous sommes à l'abri des effets les plus violents de la persécution. Nous maîtrisons la technologie, nous occupons les départements de l'université. Certains parmi nous, les plus hardis, éprouvent quelques difficultés à enseigner librement. Je l'éprouve moi-même, par exemple, bien que j'aie mes étudiants et puisse tranquillement tenir des réunions en dehors du campus. Néanmoins, si nous étions vraiment écartés de la vie publique, la technologie s'effondrerait et les universités perdraient leur crédit auprès de la galaxie. Sans doute telle est la stupidité des hommes que la perspective d'un suicide intellectuel pourrait bien ne pas les empêcher de se livrer à leur haine, mais nous avons le soutien de la Fondation. Par conséquent, tout en étant constamment l'objet de railleries, de mépris et de dénonciations, on ne nous touche jamais.
Est-ce l'opposition populaire qui vous empêche de nous dire où se trouve la Terre? Demanda Trévise. Craignez-vous que, malgré tout,
le sentiment antiseptique finisse par mal tourner si vous alliez trop loin ? Déniador secoua la tête.
« Non, la position de la Terre est inconnue. Je ne vous dissimule rien par peur ou pour toute autre raison.
Mais écoutez, le pressa Trévise. Il existe un nombre limité de planètes dans ce secteur de la galaxie à posséder les caractéristiques physiques associées à l'habitabilité. Et presque toutes doivent être non seulement habitables, mais habitées, et par conséquent bien connues de vous. Quelle difficulté y aurait-il à explorer le secteur à la recherche d'une planète qui serait habitable, mis à part le fait qu'elle soit radioactive ? En outre, il s'agirait de repérer une telle planète accompagnée d'un satellite de grande taille. Entre sa radioactivité et son satellite géant, il serait impossible de ne pas remarquer la Terre ou de la rater, même au cours d'une recherche superficielle. Cela pourrait prendre un certain temps, mais ce serait bien là la seule difficulté.
L'opinion des sceptiques est bien entendu qu'aussi bien la radioactivité de la Terre que son satellite géant ne sont que de simples légendes. Les chercher, c'est chercher du lait d'hirondelle et des plumes au lapin.
Peut-être, mais cela ne devrait pas empêcher Comporellon d'entreprendre au moins la recherche. Qu'elle découvre un monde radioactif de taille convenable pour être habité, et doté d'un vaste satellite, quelle apparence de crédibilité cela ne procurerait-il pas à l'ensemble des légendes comporéliennes ? Déniador éclata de rire.
Il se pourrait bien que Comporellon s'en abstienne pour cette raison précise.
Si nous échouons, ou si nous découvrons une Terre manifestement différente de celle des légendes, c'est l'inverse qui se produirait. L'ensemble des légendes de Comporellon se dégonflerait et deviendrait l'objet de risées. Jamais Comporellon ne prendra un tel risque.
Trévise observa un silence, puis poursuivit sans se démonter.
Par ailleurs, même si nous écartons ces deux caractéristiques uniques, la radioactivité et le satellite géant, il en demeure une troisième qui, par définition, doit exister, sans nulle référence aux légendes. La Terre doit abriter soit une vie florissante d'une incroyable diversité, soit les survivants d'une telle abondance, ou à tout le moins leurs traces fossiles.
Conseiller,
dit Déniador,
même si Comporellon n'a jamais organisé la moindre expédition de recherche de la Terre, nous avons toutefois l'occasion de voyager dans l'espace et nous recevons à l'occasion les comptes rendus de vaisseaux qui, pour telle ou telle raison, se sont écartés de leur route. Les sceaux ne sont pas toujours parfaits, comme vous le savez peut-être. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais relevé la trace de la moindre planète ayant des caractéristiques approchant celles de la Terre des légendes, ou d'une planète grouillante de vie. Pas plus qu'aucun vaisseau n'ira s'amuser à atterrir sur une planète apparemment inhabitée pour aller à la pêche aux fossiles. Si donc, au cours de milliers d'années, on n'a jamais rien rapporté de la sorte, j'aurais fortement tendance à croire qu'il est impossible de localiser la Terre pour la bonne raison qu'il n'y a pas de Terre à localiser.
Mais elle doit bien se trouver quelque part quand même, s'exclama Trévise frustré. Quelque part doit exister une planète sur laquelle ont évolué l'humanité et toutes les formes de vie familières qui lui sont associées. Si la Terre n'est pas dans ce secteur de la galaxie, elle doit se trouver ailleurs.
Peut-être,
fit Déniador sans se démonter.
Mais durant tout ce temps, elle n'est apparue nulle part.
Les gens ne l'ont pas vraiment cherchée.
Eh bien vous aussi, apparemment. Je vous souhaite bonne chance, mais je ne parierai pas sur votre succès.
Y a-t-il eu des tentatives pour déterminer par des moyens indirects la position possible de la Terre ? Des moyens autres que la simple recherche ?
Oui,
répondirent deux voix à la fois. Déniador, qui était l'une des voix, se tourna vers Pellorat.
« Êtes-vous en train de penser au projet de Yarif ?»«
Certes, » dit Pellorat.
« Alors, voudriez-vous l'expliquer au conseiller ? Je crois qu'il sera plus enclin à vous croire que moi. »«
Voyez-vous, Golan, » commença Pellorat, « dans les derniers temps de l'Empire, il y eut une période où la quête des origines, comme on disait à l'époque, était devenue un passe-temps populaire. » Peut-être pour s'évader des désagréments de la réalité environnante. L'Empire était à l'époque engagé dans un processus de désintégration, voyez-vous. Il apparut à un historien livien, Humbal Yarif, que quelle que fût la planète des origines, elle avait dû coloniser des mondes proches d'elle avant les planètes situées plus loin. Et plus généralement, plus un monde serait situé loin du point d'origine, et plus tardivement, il aurait été colonisé. Supposez alors que l'on nota les dates de colonisation de toutes les planètes habitables de la galaxie de manière à raccorder toutes celles datant d'un même nombre de millénaires. Il pourrait exister un réseau de planètes âgées de 10 000 ans, un autre pour celles de 12 000 ans, un autre encore pour les planètes colonisées depuis 15 000 ans. Chacun de ces réseaux devrait en théorie être plus ou moins sphérique, et tous devraient être plus ou moins concentriques. Les plus anciens formeraient des sphères de diamètre plus petit que les plus récents, et si l'on repérait tout leur centre, ceux-ci devraient se retrouver dans un volume d'espace relativement réduit qui devrait inclure la planète des origines, la Terre. La ferveur se lisait sur le visage de Pellorat, tandis qu'il ne cessait de dessiner dans les airs des enveloppes sphériques de ses mains en coupe. « Vous me suivez, Golan ?»
Trévis acquiesça.
« Oui. Mais je parie que ça n'a pas marché. »
« En théorie, ça aurait dû, mon brave compagnon. »
Le hic, c'est que les dates d'origine étaient totalement inexactes. Chaque monde exagérait son âge à un degré ou un autre, et il n'y avait aucun moyen facile de déterminer leur âge indépendamment de la légende.
« La décomposition du carbone 14 dans les souches d'arbres anciennes, » dit Joie.
« Sans doute, ma chérie, mais il vous aurait fallu obtenir la coopération des mondes en question, et celle-ci ne fut jamais accordée. Aucune planète n'avait envie de voir détruire sa revendication d'ancienneté, et l'Empire n'était pas en position de surmonter les objections locales dans une affaire aussi mineure. Il avait d'autres soucis en tête.
Tout ce que Yarif put faire, ce fut donc d'exploiter les mondes à n'avoir été colonisés que depuis 2000 ans au mieux, et dont la fondation avait été méticuleusement enregistrée dans des circonstances fiables. Il n'y avait que quelques planètes dans ce cas, et si elles étaient distribuées de manière grossièrement sphérique, leur lieu géométrique était relativement proche de Trentor, la capitale impériale, car c'était de là que les expéditions colonisatrices étaient parties pour ces mondes relativement peu nombreux. Ce qui, bien entendu, constituait un autre problème. La Terre n'était pas le seul point d'origine de la colonisation d'autres planètes. À mesure que le temps passait, les mondes les plus anciens organisaient eux-mêmes leur propre expédition de colonisation, et au moment de l'apogée de l'Empire, Trentor avait contribué de manière non négligeable à celle-ci. Yarif fut assez injustement raillé et ridiculisé, et sa réputation professionnelle démolie.
« Je vois le tableau, Janoff, » dit Trévis.
« Mais docteur Deniador, n'avez-vous vraiment rien à me fournir qui puisse alimenter la moindre parcelle d'espoir? Y a-t-il une planète quelconque où il serait concevable qu'on puisse trouver quelque information au sujet de la Terre ?»
Deniador s'abîma quelques instants dans une réflexion dubitative.
« Eh bien, »
dit-il enfin d'une voix hésitante,
« en tant que sceptique, je dois vous dire que je ne suis pas certain que la Terre existe ou qu'elle ait jamais existé. Toutefois... »
Il retomba dans le silence. Finalement, Joie intervint.
« Je crois que vous avez songé à quelque chose qui pourrait être important, docteur. »«
Important, j'en doute, »
fit Deniador d'une voix faible.
« Peut-être amusant, toutefois. La Terre n'est pas la seule planète dont la position soit un mystère. Il y a les mondes du premier groupe de colons, les spatiaux, comme les appellent nos légendes. Certains appellent les planètes qu'ils ont habitées les mondes spatiaux. D'autres les baptisent les mondes interdits. Ce dernier terme est le plus commun. Au temps de leur splendeur, dit la légende, les spatiaux avaient une durée de vie qui s'étendait sur des siècles. Et ils refusaient à nos ancêtres, à l'existence brève, l'atterrissage sur leur planète. Une fois que nous les avons vaincus, la situation s'est trouvée renversée. Nous avons refusé de traiter avec eux, les laissant se débrouiller seuls, interdisant à nos vaisseaux et à nos négociants de commercer avec eux. D'où ce terme de mondes interdits. Nous étions certains, si l'on en croit la légende, que celui qui châtie les détruirait sans notre intervention. Et apparemment, ce fut le cas. En tout cas, aucun spatial n'est à notre connaissance apparu dans la galaxie depuis des millénaires.
Croyez-vous que les spatiaux pourraient connaître la Terre ? Demanda Trévise.
C'est concevable, puisque leur planète était plus ancienne que les nôtres. C'est-à-dire, si les spatiaux existent encore, ce qui est hautement improbable.
Même si eux n'existent plus, leur monde, si,
et ils pourraient contenir des archives. Encore faudrait-il que vous puissiez les retrouver, ces mondes.
Trévise paraissait exaspéré. Entendez-vous par là que la clé de la Terre, dont la position est inconnue, pourrait se trouver sur un de ces mondes spatiaux dont la position est tout aussi inconnue ?
Déniador haussa les épaules.
Nous n'avons pas eu de rapport avec eux depuis 20 000 ans. Pas une fois songé à eux. Ils se sont, tout comme la Terre, fondus dans le brouillard.
Sur combien de planètes vivaient les spatiaux ?
Les légendes parlent de 50, un nombre bien curieusement rond. Il y en avait sans doute beaucoup moins.
Et vous ne connaissez pas la position d'une seule de ces 50 planètes ?
Eh bien, maintenant je me demande...
Que vous demandez-vous ?
L'histoire ancienne étant mon dada, comme celui du docteur Pellerat, j'ai eu l'occasion de consulter de vieux documents à la recherche de tout ce qui pourrait se rapporter à ces temps anciens. Quelque chose de plus consistant que les légendes. L'an dernier, je suis tombé sur les archives d'un ancien vaisseau, des archives presque indéchiffrables. Ces documents remontaient au tout premier jour où notre planète n'était pas encore connue sous le nom de Comporellon, mais avait encore sa dénomination initiale de monde de Bailey. Le fait était intéressant car, jusqu'alors, le seul endroit où le terme apparaissait était dans la poésie primitive.
« Avez-vous publié ?»
demanda Pellerat, tout excité.
« Non. Pour reprendre le vieux dicton, je n'ai pas envie de me jeter à l'eau tant que je ne suis pas certain que la piscine est remplie. Voyez-vous, le journal de bord dit que le commandant du vaisseau a relâché sur un monde de spatiaux et redécollé avec une spatiale.
Mais vous avez dit que les spatiaux n'autorisaient pas l'entrée de visiteurs, remarqua Joie.
Tout juste. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas publié mes recherches. Cela paraît incroyable. Quantité de planètes possèdent, avec de multiples variantes, quantité de comptes sur les spatiaux et leurs conflits avec les secondes vagues de colons, nos propres ancêtres. Mais toutes les légendes s'accordent absolument au moins sur un point. Les deux groupes, spatiaux et colons, ne se mêlaient pas. Il n'y avait aucun contact social, encore moins sexuel. Et pourtant, il semblerait que le capitaine colon et la femme spatiale étaient unis par les liens de l'amour. Cela paraît si incroyable que je ne vois aucune chance que l'histoire soit acceptée autrement qu'à titre, au mieux, de fiction historique romantique.
Trévise paraissait déçu. Est-ce tout ?
Non, conseiller. Il y a encore autre chose. Je suis tombé sur certains chiffres dans ce qui restait du journal de bord du vaisseau. Chiffres qui pourraient, ou non, représentaient des coordonnées spatiales. Si tel était le cas, et je le répète, puisque mon honneur de sceptique m'y pousse, il se pourrait que non, eh bien, des preuves internes m'ont amené à conclure qu'il s'agirait des coordonnées spatiales de 3 des mondes spatiaux. L'un d'eux pourrait être celui où le capitaine a atterri et d'où il est reparti avec sa bien-aimée spatiale.
Ne serait-il pas possible, insista Trévise, même si le récit relève de la fiction, que les coordonnées soient vraies ?
Cela se pourrait,
admit Déniador.
Je vais vous donner les chiffres, et vous êtes libre d'en faire usage. Mais ils peuvent fort bien ne vous mener nulle part. Et pourtant, j'ai là-dessus une hypothèse amusante.
Son vif sourire reparut.
Qui est ? Demanda Trévise.
Et si l'un de ces 3 groupes de coordonnées représentait la Terre,